divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la Grande Loge de France. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons entamer aujourd'hui un cycle sur l'évocation d'un certain nombre de personnalités qui ont été très importantes dans la maçonnerie en général et à la Grande Loge de France. On parlera un jour de Gustave Mesureur, que l'on disait le social, on parlera de Lafayette, le fidèle et courageux, on parlera sûrement de Cambacérès un jour, qui lui, on peut lui associer les mots d'ordre et transmission. Mais aujourd'hui, nous allons parler de Adolphe Crémieux. Et pour ce faire, nous recevons Joseph Bénichoux. Bonjour Joseph.
Bonjour.
Et vous avez particulièrement travaillé, étudié sur cette personnalité haute en couleur qui s'est engagée dans de multiples fronts, on va dire.
Oui.
Rien n'a été simple pour lui. Alors j'ai dit Adolphe Crémieux, mais peut-être qu'il faudrait dire Adolphe Isaac Crémieux.
Oui.
Et nous expliquer peut-être ses origines familiales.
En fait, on lui a imputé beaucoup de prénoms. C'est Isaac Adolphe, c'est les prénoms qui sont sur son extrait de naissance déposé pour sa candidature à la députation d'Indre-et-Loire. Ce fut un des juifs de la première génération nés français et il voua une grande admiration à l'abbé Grégoire dont il fit l'éloge funèbre. Isaac, prénom hébraïque, Adolphe, parce que le Senatus Consulte du 11 Germinal 1803 avait retiré les registres d'état civil aux églises et les prénoms devaient être ceux du calendrier français.
D'où Adolphe.
D'où Adolphe. Il a été à l'école primaire catholique. Ensuite, très brillant, il a été envoyé à Louis le Grand, lycée impérial Louis le Grand, où il fut un ami fidèle de Victor Hugo. Il a eu les prix du concours général en littérature. À Aix-en-Provence, il revient et il étudie le droit où il rencontre Thiers. Son père était engagé dans la Révolution et il avait été appointé par la Convention officier municipal.
On reviendra sur la suite, mais vous avez parlé donc d'Isaac Crémieux.
Oui.
Ses parents étaient juifs, je suppose.
Oui, les deux, son père et sa mère. Oui.
Bon, il était dans une école catholique, puis au lycée Louis le Grand. Comment se fait-il qu'il est allé dans ces écoles? Parce qu'on verra qu'à un moment donné, il a été très important pour la cause des Juifs en France. Mais cet espace-là, comment vous l'expliquez?
Alors, écoutez, sa famille, les Juifs en général et sa famille en particulier, étaient très impliqués dans l'organisation des cultes de Napoléon. Et ils ont participé activement, en particulier à l'organisation des consistoires.
On reviendra dans l'évolution de Adolphe Isaac Crémieux. Il est devenu avocat.
Alors,
quelle est la première partie de cette vie d'avocat, je crois, dans les années 1817?
Il entre dans la vie active après revenu d'Aix et il s'inscrit au barreau de Nîmes. Il a 21 ans. En même temps, au même moment, il s'inscrit un an plus tard, je pense. Il est initié en franc-maçonnerie au Grand Orient de France et il entre, on va dire, dans la vie active dans le Gard et dans le Sud. Et là, il s'applique à défendre tout le monde, les victimes de la Terreur blanche.
Y compris les personnes qui ne sont pas de ses opinions.
Y compris les personnes qui ne sont pas de ses opinions politiques. Et en particulier, il a, comme son père, protégé les prêtres réfractaires. Son père qui avait été déchu de son poste d'officier municipal parce qu'il avait protégé, caché, voire les prêtres réfractaires.
Ça a dû lui coûter dans sa vie d'avocat, non? Ça a dû lui coûter un petit peu dans sa carrière?
Non, pas tellement. Au contraire, ça lui a donné une aura. Il faut noter quand même qu'il a fait abolir le moré judaïco.
Là, il faudrait expliquer. Est-ce que c'est à ceux qui ne sont pas habitués au prétoire?
Un usage qui faisait que les Juifs étaient obligés de prêter serment quand ils venaient se plaindre, de prêter serment sur la Torah en présence d'un rabbin. On ne leur faisait pas trop confiance.
C'était il n'y a pas si longtemps.
En 1840. Il a épousé Amélie Silny. Alors, pourquoi d'une famille juive de Metz, Amélie s'est convertie au catholicisme sans le prévenir. Et le couple resta. Elle a converti ses enfants aussi, et le couple resta uni jusqu'à la fin. Ça peut expliquer pourquoi on lui a mis l'étiquette de Crémieux le laïc.
Et après, il est entré en politique où il a eu un parcours aussi prestigieux dans les années 48.
À Nîmes, il a été au Grand Orient, et dans sa loge, il a été actif parce qu'après il a un peu abandonné les choses. Il a été très actif, il en a été l'orateur, responsable de la loi maçonnique, et second surveillant, responsable de l'accueil des nouveaux. En 1830, il monte, entre guillemets, à Paris. Son frère Odilon Barreau est promu préfet de la Seine, et il lui achète sa charge d'avocat au Conseil du Roi, c'est-à-dire l'équivalent du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Et là aussi, à nouveau, il plaide pour des gens qui ne sont pas de son bord politique, parce qu'il s'est engagé à gauche, enfin dans la Révolution et à gauche. Guernon Ranville, qui était un de ceux qui avaient signé les ordonnances félonnes que Charles X avait faites pour revenir en arrière à l'ancien régime. Voilà, il a défendu Guernon Ranville, qui risquait la peine de mort. Et d'ailleurs, plus tard, il a fait en sorte que la peine de mort soit abolie pour tout délit politique. Voilà, il a eu une réputation internationale à propos de l'affaire de Damas, où il s'est agi de défendre des juifs qui étaient accusés de meurtre rituel. Et ça, là aussi, ça lui a donné une aura internationale.
Alors, en 48.
Alors, en 48, il entre dans sa carrière politique en se faisant élire puis réélire en Indre-et-Loire. On dit qu'il fut un des chefs de la gauche et un opposant à Guizot. Il a animé très activement la campagne des banquets qui aboutit à cette révolution de 1848. Et là, il entre au gouvernement provisoire, est confirmé ensuite par les élections et il devient ministre de la Justice. Et il fait un certain nombre de réformes, dont celle portant sur la liberté de la presse. Il abolit la peine de mort, comme je vous le disais, pour raisons politiques. Puis il démissionne car ça ne lui plaît pas, la façon dont ça tourne.
Il revient à la vie civile alors
Il démissionne et après l'avoir soutenu, il devient un opposant à Napoléon III. Ce qui lui vaut d'être emprisonné à la prison Mazas. Les autres opposants, comme Victor Schœlcher, Victor Hugo, ont préféré l'exil. Enfin, sont partis en exil. Voilà. Il revient donc à la vie civile. Et là, deux choses. Il retourne à la franc-maçonnerie. Il fréquente les loges parisiennes. Et il se consacre aux arts et belles-lettres et tient un salon artistique et littéraire où de nombreux personnages célèbres, dont Rossini, Meyerbeer, Georges Sand, etc., fréquentent. Ces salons deviennent un centre d'opposition démocratique et il va revenir à la vie politique. Entre-temps, il fonde l'Alliance israélite universelle, dont il ne fut pas le premier président. On pense qu'il avait quelques ennuis du fait de la conversion de sa femme. Et cette organisation est un peu calquée sur l'Alliance évangélique universelle. Il était ami et fréquentait Abraham Pétavel à Londres. Et l'organisation de l'Alliance israélite universelle a été un peu calquée sur l'Alliance évangélique universelle. Le but n'était pas les mêmes.
Après, je suppose qu'il revient, avec le triste épisode de Sedan, il revient
voilà,
à la politique.
Après la défaite de Sedan, il se fait réélire député à Paris. Et là, il est désigné comme chef du gouvernement provisoire, envoyé à Tours pour administrer le territoire non occupé. Il a 77 ans et entre en conflit avec Gambetta, à qui il avait mis le pied à l'étrier, à la fois en maçonnerie, en politique et en tant qu'avocat. Et là, il est un peu poussé et contraint d'agir vite par Gambetta, dont on connaît le tempérament, et il élabore et signe avec Glébisoin, Gambetta et Fourichon 9 décrets qui organisent l'administration de l'Algérie. Il retire l'administration militaire, et là, il y a 9 décrets, on crée des préfets, des tribunaux, etc. Et c'est là que c'est le fameux décret Crémieux qui est réducteur pour lui, pour toute son activité. Voilà.
C'est à ce moment-là que peut-être la partie de l'engagement maçonnique est plus présente. Et peut-être pourriez-vous nous expliquer comment, à partir de ses origines, de son initiation à Nîmes, il est arrivé dans ce qui s'appelait la Grande Loge écossaise à l'époque, les prémices de la Grande Loge de France, et puis son intérêt, plus qu'un intérêt au rite écossais ancien accepté, et puis son rôle justement dans le développement de ce rite.
Alors, comme je vous le disais, il a été initié au Grand Orient de France, et puis à Paris, il a assisté aux tenues du Suprême Conseil de France, Et là, il a été séduit par le caractère universel du rite écossais ancien accepté et il présente sa candidature. Il est admis et il franchit tous les degrés du 3e jusqu'au 33e. Il est coopté au Suprême Conseil de France en 1868 et il est élu, c'est la première fois qu'il y a une élection, grand commandeur du Suprême Conseil de France, l'équivalent du grand commandeur du Suprême Conseil de France en 1869. Et là, il organise une réunion internationale à Lausanne en 1875. Auparavant, il y avait régulièrement des réunions internationales. Les plus importantes sont celles de 1762 à Bordeaux, 1886 à Berlin, 1834 à Paris. Il y en a eu d'autres après et cela continue. Le convent de Lausanne s'inscrit dans la trajectoire des réunions internationales précédentes que je viens de citer.
Mais il y avait à l'époque un problème.
Oui.
Que vous allez développer, c'était Dieu, quel nom faut-il lui donner, oui. Ou comment, quelles sont les relations entre la maçonnerie et les religions peut-être?
Alors oui, effectivement, mais le but de ces réunions internationales était de réaffirmer à chaque fois l'objectif du maçon et de la maçonnerie, à savoir travailler au bonheur de l'humanité, démarche empreinte de tolérance et de spiritualité. Alors le contexte politique, les oppositions entre différentes tendances maçonniques, y compris au sein du Suprême Conseil de France, au sujet de Dieu, par exemple, les divergences entre certains pays, en particulier avec les États-Unis, firent qu'à l'initiative de Crémieux, un convent fut réuni à Lausanne du 6 au 22 septembre. Il arriva à la fin, le 21, et fut désigné comme président pour diriger les travaux. Il fut confié à la fin des travaux par Jules Besançon, le président en charge, une synthèse pour en assurer la diffusion, les conclusions. Et dans son manifeste, il utilise les termes suivants, force supérieure, principe créateur, créateur suprême, de façon à créer une harmonie entre les différentes tendances déistes, théistes et spiritualistes sans Dieu. Et ce manifeste fait toujours partie des principes généraux de la Grande Loge de France.
Alors, si vous voulez bien, avant que vous puissiez conclure, je vais vous lire quelques petits paragraphes de la déclaration de principe qui sont évidemment toujours d'actualité à la Grande Loge de France. La franc-maçonnerie proclame, comme elle a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. Elle n'impose aucune limite à la recherche de la vérité. Et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance. La franc-maçonnerie est donc ouverte aux hommes de toute nationalité, de toute race et de toute croyance. C'est écrit en 1875 et c'est toujours vrai puisque tout ceci fait partie des premiers règlements de notre Constitution à la Grande Loge de France. Alors je cite aussi, la franc-maçonnerie a pour but de lutter contre l'ignorance sous toutes ses formes. C'est une école mutuelle dont le programme se résume ainsi, obéir aux lois de son pays, vivre selon l'honneur, pratiquer la justice, aimer son semblable, travailler sans relâche au bonheur de l'humanité et poursuivre son émancipation progressive et pacifique. Voilà ce que la franc-maçonnerie adopte et veut faire adopter à tous ceux qui ont le désir d'appartenir à la famille maçonnique. 1875, c'est toujours vrai en 2019 et espérons-le le plus longtemps possible. Et alors, pour conclure, il y a un discours assez fondamental de Adolphe Isaac Crémieux que vous pourriez peut-être nous lire, s'il vous plaît.
Oui, ça illustre et ça tiendra lieu de conclusion ses convictions. C'est lors d'un banquet au Trocadéro en 1878, il va mourir 2 ans plus tard. Et un extrait, il dit « La religion maçonnique, chers auditeurs, n'est pas ce qu'on appelle une religion. La franc-maçonnerie les admet toutes et elle n'en repousse aucune. » Et celui qui vous parle est bien la preuve de cette vérité. Soyez catholiques, protestants, juifs, mahométans, 1878. La maçonnerie ne vous le demande pas. Elle admet tout ce qui est honnête, probe, tout ce qui a un cœur généreux. La maçonnerie d'aujourd'hui vit surtout par l'esprit et par l'intelligence. Et quand elle dit à la gloire du grand architecte de l'univers, c'est qu'elle reconnaît une source à cette intelligence qui dirige le monde au sein duquel nous vivons. Le spiritualisme est donc le fond réel de la maçonnerie.
Prémonitoire. Espérons, encore une fois, je me répète, que tout ceci soit toujours vrai partout, en tout lieu et dans tout pays.
Espérons.
Et on sait que la maçonnerie n'a pas la possibilité de s'exprimer dans tous les pays. Évidemment, ça nécessite un peu de démocratie.
Espérons en confiance.
Merci beaucoup, Joseph. Merci à Manuel Couturier à la technique. Merci à Dany Journeau, fidèle à la réalisation. Bon dimanche à toutes et à tous. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le 21 juillet. Nous parlerons de la Grande Loge de France à l'étranger et puis des relations entre la Grande Loge de France et les obédiences des pays étrangers. Et puis, au mois d'août, nous parlerons de points de vue initiatiques, ce qui fait que cette émission, je ne développe pas le programme, mais au mois d'août, nous consacrerons toute notre émission à notre revue Points de vue initiatiques. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir.